Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Nous sommes avec Gabrielle Mallet, sexologue à Trélissac, avenue Michel Grandoux. Gabrielle, bonjour.
Bonjour.
Ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais en une phrase ?
En une phrase ? Femme, mère et sexologue joyeuse et heureuse.
Quand tu étais enfant, Gabrielle, ou ado, est-ce que tu imaginais faire ce métier-là ?
Alors pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu faisais avant ?
Moi, j'ai fait infirmière et en cancéro pendant longtemps. Et puis après, j'ai rencontré mon mari qui est urologue, donc j'ai fait plus d'urologie. Je me suis formée en urologie et puis c'est en travaillant en urologie que je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas de sexualité. Et je me suis dit, si on ne parle pas de sexualité en urologie, en gynécologie plus ou moins, parce que j'ai quand même eu un parcours comme toutes les femmes de gynécologie, je me suis dit, si on n'en parle pas là, on en parle où ? Et en fait, au départ, c'était plus pour upgrader la prise en charge des patients de mon mari. Et puis c'est tellement intéressant, j'ai fait le diplôme universitaire national de 3 ans, qui est quand même assez balèze, parce qu'il y a des examens à chaque fin d'année, un mémoire, une soutenance à la fin des 3 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était tellement intéressant que je ne pouvais pas me limiter aux problèmes urologiques au niveau de la sexualité. Et que j'ai dit, bah, je vais m'installer en libéral, comme ça je pourrais aider plein de gens.
Et alors toi, quand tu étais plus jeune, tu l'appréhendais comment la sexualité ? Est-ce que c'était quelque chose pour lequel tu étais curieuse ? Ça représentait une gêne, un tabou ? Qu'est-ce que c'était ?
Je pense que j'étais comme les ados de mon âge à l'époque et peut-être encore maintenant. J'étais curieuse, c'était challenger, c'était être in de pouvoir l'avoir fait. Mais je l'appréhendais, je pense pas de la bonne manière.
Et avec tes proches à l'époque, c'était quelque chose dont vous parliez facilement ou pas particulièrement à ton...
Non, ça restait tabou quand même.
Et alors, en parlant de tes proches, du coup, comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu leur as dit que tu devenais sexologue ?
Alors, nous, on n'est pas en chose, ça réagit pas beaucoup, de toute façon, généralement. Mon mari a trouvé ça génial. Et c'est surtout la réaction de mes enfants que j'ai trouvé chouette parce qu'elles m'ont dit, et mes copines aussi, qui m'ont dit « mais c'est fait pour toi, ça va être trop bien, tu vas mettre les gens trop à l'aise pour en parler, c'est super ». Et mes filles qui m'ont dit « mais c'est génial, je suis trop contente, tu vas pouvoir aider plein de gens et c'est super ». Donc en fait, elles m'ont vraiment, vraiment poussée à aller là-dedans, me disant que j'allais être bien. Et elles avaient raison en fait.
Est-ce que par moment, tu t'es déjà sentie incomprise de par ce choix professionnel en dehors de...
Bah écoute, non, ceux qui ne me comprennent pas, ils ne me l'ont pas dit ou alors je ne l'ai pas vu.
Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours ? Parce que comment est-ce qu'on devient sexologue ?
Bah, le problème, c'est que le sexologue, ce n'est pas du tout protégé encore en France. Donc déjà, un, ce n'est pas remboursé, mais en plus, ce n'est pas reconnu. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent faire 2 jours de formation et qui peuvent s'étiqueter sexologue. Il y a des gens qui vont faire le DU national et qui vont pouvoir se dire qu'ils sont sexothérapeutes ou sexologues. Mais il y a des gens qui vont être rien du tout, mais qui vont se dire « moi, je suis une bête de sexe, donc je vais m'installer en fait ».
Ah oui, d'accord.
Et comme en fait, ce n'est pas du tout protégé, je sais que pour le diplôme universitaire, il faut avoir un prérequis. Il faut déjà être infirmier ou être médecin ou être sage-femme ou être kiné ou être psychologue. Mais c'est ça aussi qui fait toute la richesse. C'est que je pense que moi, la façon dont je gère mes consultations de sexologie, ça va être complètement différent d'un médecin sexologue ou d'une psychologue sexologue parce qu'on n'a pas les mêmes approches, on n'a pas les mêmes sensibilités et les mêmes résonances. Pour faire passer le message que c'est pas parce que vous avez rencontré un sexologue et que c'est pas passé, que c'est parce qu'il y aura pas de résultat pour vous, c'est peut-être que c'était pas la bonne personne en fait.
Est-ce que tu dirais du coup qu'avec toi, l'approche est plus libre dans le propos ? Est-ce que c'est moins médical ?
Moi, j'ai forcément à être d'accord avec ce que je fais puisque c'est ce que je propose. Donc, en fait, non, moi j'ai décidé d'avoir des consultations qui me ressemblent. Donc ça va être, oui, ça va être un discours très... un langage, comme je te parle là maintenant, ça va être très décomplexé. Je fais très attention en revanche de ce que je vais utiliser comme vocabulaire. Je vais me calquer souvent sur le vocabulaire des patients, donc s'ils sont un peu crus, ça va évidemment pas me choquer, mais je vais pouvoir reprendre ce qu'ils vont pouvoir dire pour qu'on puisse communiquer mieux que ça. Oui, non, c'est pas, il y a pas ce côté déjà, tu vois, mon cabinet, c'est pas une salle de médicale, quoi. On n'est pas du tout là-dedans, et je trouve que c'est ça qui est important parce que ça pousse, enfin il y a des confessions qui sont faites dans ce cabinet qui sont très difficiles à faire, qui sont très, des secrets qui sont levés, qui sont très difficiles à dire. Et je trouve que d'avoir une écoute dans un endroit chaleureux, c'est déjà aidant, quoi.
Donc tu t'adaptes et puis tu fais en sorte que les gens puissent parler, se livrer facilement. Mm-mm. Quelle est la plus grosse idée reçue sur les sexologues ?
Ah, bah, je sais pas, la idée reçue, c'est qu'on doit être des bêtes de sexe, peut-être. J'ai eu des gens qui, des fois, comme ça, qui me disaient « Mais vous devez tout essayer pour pouvoir en parler. » Ah non, j'ai mes limites aussi quand même. Mais il y a des choses qu'on apprend dans le livre. Mais non, idées reçues, je sais pas d'ailleurs s'il y a des idées reçues. Je me suis jamais trop posé la question.
Ouais, mais je serais partie du même postulat que toi. Imaginez que comme on est sexologue, on est sûrement une bête de sexe.
Ouais. Ouais, alors non, en fait. Désolée, je fais tomber le truc. Je me sens
tu,
pas.
Tu déconstruis le mythe.
Bon, il faudra interroger mon mari, mais je ne crois pas être une bête de sexe, non.
Est-ce qu'on t'a déjà posé une question improbable? Enfin, si oui, quelle est-elle?
Bah, des questions improbables, il n'y en a pas, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, après, il y a eu des gens qui appelaient pour. Parce que parler à une sexologue, ça les faisait triper, quoi. J'ai eu quelques 2-3 tordus quand même, oui. Mais en 3 ans, donc c'est pas énorme par rapport à la spécialité que je véhicule. Donc non, ça va. J'ai plutôt des gens ici. Il y a toujours des gens qui me font alors raconte. Tu dois avoir des trucs trop croustillants à nous raconter à l'apéro. Je dis ben non. Moi, ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai des histoires glauques, j'ai des histoires horribles à raconter, donc je ne les raconte pas d'ailleurs, mais je n'ai pas de trucs drôles en fait. Les gens, ils ne viennent pas ici pour nous faire rigoler sur les trucs sexuels, c'est plutôt triste.
D'accord, la plupart du temps, c'est plutôt triste.
Ben ouais, c'est plutôt des traumas en fait, hein, qui vont engendrer des problèmes sexuels, donc les trucs drôles, non, il n'y en a pas.
Comment tu fais pour gérer ça émotionnellement, le fait de suivre des personnes qui ont subi des traumatismes assez
Eh ben, des fois, c'est pas facile. Il y a des histoires qui touchent plus que d'autres. Il y a des histoires où ça rentre en résonance avec moi plus qu'avec d'autres. Et on a. Alors, j'ai la chance, là, après mon DU de sexo, d'avoir continué les études. Là, je finis ma 4e année de thérapie systémique. Donc, là, je fais vraiment, c'est de la thérapie de la psy, en fait, la psychothérapie. Et c'est très intéressant pour la prise en charge des patients. Et pour moi aussi, pour apprendre à gérer mon émotionnel et à mieux me réguler aussi par rapport à ce que je reçois des patients. Ça me permet de partager de pratiques avec d'autres professionnels qui vont pouvoir m'aider sur quelque chose qui va me poser problème, quoi. On n'est pas tout seul, il ne faut pas d'ailleurs.
Et du coup, est-ce qu'il t'arrive, toi, à travers les échanges que tu peux avoir avec tes patients, d'être choquée?
Ouais. Plus ou moins, Alors, c'est pas choqué, mais c'est vrai que je rentre dans ma cuisine. Là. Ma cuisine, c'est mon petit lieu... boudoir cocon. Et des fois, il me faut un moment où je me dis waouh, mais quelle vie en fait, qu'est-ce que les gens ont traversé, quoi. Et ça remet aussi les choses en place en disant waouh, regarde comment t'es trop bien en fait. Oui. Tes petits traumas à toi. Alors, il faut jamais non plus, il n'y a pas de petits traumas, j'ai envie de dire, mais tu te dis waouh, ces gens ils sont encore debout, quelle capacité de résilience. C'est aussi, on apprend d'eux, enfin, moi j'apprends beaucoup d'eux en fait, c'est fabuleux.
Les gens te consultent principalement en solo ou ils viennent en couple?
Ah ben j'ai les deux. Ouais. J'ai les deux. J'ai des gens qui viennent tout seuls et j'ai des gens qui viennent en couple. En sachant que les gens qui viennent tout seuls, c'est des fois pour une problématique qui date. Souvent, ils ne l'ont pas pris en charge depuis longtemps. Enfin, jamais d'ailleurs. De toute façon, ça a une répercussion sur leur couple actuel.
Bien sûr. T'as plus de patients de femmes ou hommes ou c'est assez...
Franchement, je pense qu'on n'est pas loin du 50-50.
D'accord.
Ouais. J'ai beaucoup plus de femmes jeunes. Les pépettes que je peux avoir de 17 ans, 18 ans, je vais avoir plutôt des femmes et plutôt des hommes plus âgés.
D'accord.
Parce que c'est pas la même problématique qui vont m'amener.
Et alors, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont plutôt bien sexuellement ou plutôt mal?
Moi, j'ai un biais de sélection parce que ceux qui vont bien, ils viennent pas me le raconter, ils vont me dire c'est trop bien, oui, c'est génial. Moi, c'est j'ai vrai. Que des gens qui vont pas bien ou qui espèrent que ça aille mieux. Donc non, je pense que la sexualité, ça a toujours été problématique dans l'histoire et qu'elle est problématique maintenant pour d'autres raisons. Parce qu'effectivement, on se devrait dire maintenant, on sait comment on est fichu, on peut savoir, il y a beaucoup moins de tabous qu'il y avait avant, il y a moins de poids sur de la religion non plus. Donc il y a la pornographie qui est arrivée et qui a changé la donne, mais qui n'a pas amélioré les choses en fait.
Oui.
Donc on a des problèmes qui sont différents, mais des nouveaux problèmes, oui.
Tu dirais que beaucoup de gens font encore l'amour sans vraiment en avoir envie ou...
Je pense qu'ils se posent plus de questions. Là où avant, on y allait pour... Parce que c'était le devoir conjugal. Heureusement que ça va être enlevé de la loi, là, en plus.
Il paraît que c'est récent.
Ouais, mais je pense que les femmes s'interrogent plus sur le fait qu'elles... Je dis les femmes parce qu'il y a les deux côtés, mais il y a quand même plus souvent des femmes dans ce cas-là, même si j'ai des hommes qui ont ce problème. Mais du coup, avec tout ce qui est parti sur le consentement avec MeToo, etc., elles se posent plus la question, elles s'interrogent plus. Et ça, c'est bien. Je pense que c'était pas le cas. Il n'y avait pas d'ouverture là-dessus il y a quelques années encore.
Chez les femmes, quelle est la souffrance sexuelle la plus fréquente que tu constates ?
Elles arrivent en me disant « j'ai plus de libido ». Alors déjà, je leur dis « non, alors c'est pas la libido, c'est peut-être le désir qui a pris cher ». La libido, ça peut, hein, mais c'est la ménopause généralement ou avec la pilule. La libido, c'est les hormones, mais c'est souvent un manque de désir. Un manque de désir dans le couple qui va poser des problèmes conjugaux parce que ça va donner des tensions par rapport à la demande du conjoint, en fait.
Même chez les jeunes qui viennent te voir, c'est aussi ça ?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Alors, chez les plus jeunes, ça va être plutôt des problèmes de douleur, de dyspareunie, comme on dit, pour ceux qui veulent jouer au Scrabble. Dyspareunie ou de vaginisme chez les plus jeunes, parce qu'elles s'interrogent en disant « mais zut, est-ce que c'est normal ?» C'est le vaginisme et la perte de désir que je vais avoir le plus chez les femmes.
Et tu l'expliques comment, ça, la perte de désir chez les femmes, généralement ?
Ça peut être plein de choses. Ça peut être notre vie contemporaine, où on doit être... une femme active, justement, chef d'entreprise, qui gagne son argent, indépendante financièrement, mais qui doit avoir des enfants propres sur elle, bien élevés, bien éduqués, qui ont des bonnes notes à l'école, qui mangent bio, donc il faut aller faire son marché. Et puis, il faut être aussi disponible pour le mari, être là pour pouvoir être encore aussi sexuellement attirant l'un l'autre, garder des connivences, sortir le chien, parce qu'on a pris un chien, donc il faut pouvoir avoir aussi du temps pour lui. Enfin, je veux dire, alors il nous faudrait 36 heures sur 24, quoi. Donc, donc à un moment donné, faut faire des choix de to-do list, comme je dis toujours. Et le couple conjugal, il passe malheureusement à la page 15, alors que sortir les poubelles et emmener chien chez le vétérinaire est à la page 1. Donc, effectivement, on se dit, au niveau de l'importance, c'est pas. Mais quand on a la tête dans le guidon. On prend les choses qui sont plus faciles à gérer et qui vont avoir une conséquence dans l'immédiateté. Ouais. Et à partir du moment où les relations conjugales, il faut être deux, il faut être disponible à deux, il faut être en cohérence à deux. Et le mot flemme, c'est terrible, il arrive. Il arrive de plus en plus dans les consultations.
Ah oui, ouais.
La flemme des relations interpersonnelles, parce que ça veut dire qu'il faut prendre en compte l'autre.
Et donc, on est de plus en plus individualiste, finalement, même dans nos relations intimes.
Parce que ça implique d'être disponible quand l'autre le veut ou d'aller demander et donc de risquer d'avoir un non. Alors que finalement, je caricature, mais Netflix, on le met quand on a envie puis on l'arrête quand on veut. Donc, c'est une liberté, une légèreté, mais un manque à gagner en relationnel à la fin, quand même.
Ouais. Et chez les hommes, tu dirais que c'est quoi ?
De quoi ?
La souffrance sexuelle la plus...
Ah, c'est la dysfonction érectile.
D'accord.
Ouais. Et ça, c'est génial dans le sens... C'est génial, non pas pour eux. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment les moyens de les aider assez rapidement.
Ah, ok.
Et ça, c'est super. Parce que ça soit organique ou psychologique, moi, c'est souvent psychologique. Et on a des techniques pour les aider, pour les écouter, qui leur font un bien fou. Et bien souvent, le deuxième rendez-vous, c'est pour me dire « Stop, c'est cool, ça va mieux, quoi ». Donc ça, non, je suis assez contente parce que pour moi, au niveau de mon égo, je me dis « Ah, c'est bien, ça répond bien, c'est chouette ».
Et c'est vers quel âge, généralement, qui développe cette problématique ?
Dysfonction érectile, ça peut aller de 25 de 20 ans à 82. Hein. Alors évidemment, pour à peu près les mêmes raisons, mais ouais, ça peut vous tomber sur le coin du nez, sans jeu de mots, n'importe quand. Et c'est tellement tabou encore qu'en fait, quand ça leur tombe dessus, ils ont l'impression d'être seuls au monde. Parce qu'évidemment, quand ils vont au bar avec les copains, ils disent pas « j'ai eu une panne là mercredi dernier, c'était un peu naze ». Non, ils vont pas raconter ça. Du coup, quand ça leur arrive, ils ont l'impression d'être tout seuls alors que ça arrive à tout le monde.
Oui, c'est juste que c'est un peu, j'imagine, à cause de l'ego un petit peu plus tabou d'en parler. Tu vois beaucoup de couples, toi, qui s'aiment mais qui se désirent plus.
Oui, qui se désirent plus pour plein de raisons, mais je reprends toujours cette charge mentale, notamment féminine, et ce rythme effréné où en fait les gens ne se désirent plus parce qu'ils ne se croisent plus. Ils ne se croisent plus, où en fait ils cohabitent, ils peuvent être ensemble peut-être 2 heures sur le canapé, mais ils vont scroller, ils vont mater la télé,
ils ne vont pas être ensemble,
ils ne vont pas être en connexion. Et pour avoir envie, pour avoir, j'ai envie de dire, un désir sexuel amoureux, il faut être en connexion déjà d'avance, quoi, pas les 10 minutes avant. Ça ne marche pas comme ça.
Ouais.
Et c'est ça qui manque, je pense, dans nos vies de fous.
Pourquoi tu dirais que le désir, si on y a un peu répondu, j'allais dire, disparaît souvent avec le temps, on parlait de charge mentale. Est-ce que, outre cette charge mentale, est-ce que c'est la continuité finalement de la sexualité de base, du désir de s'atténuer ? Est-ce que c'est le fait de rester de nombreuses années avec le même partenaire ? Est-ce que...
Je pense pas, parce que je pense qu'on peut se réinventer avec le même partenaire. Mais c'est quand, là encore, on ne prend pas la peine de se réinventer sur ce plan-là avec son partenaire. Certains le font, heureusement. Mais effectivement, c'est le fait que on a du mal à ne pas retrouver la sexualité qu'on aimait avant, parce que notre corps change aussi. et de se dire ah bah zut, c'est nul, c'est plus comme avant. Ça va être aussi bah, si c'est pas satisfaisant le rapport sexuel, bah, c'est normal qu'on n'ait pas envie d'y retourner. Donc c'est aussi s'interroger sur c'est pas satisfaisant pourquoi, parce que c'est peut-être satisfaisant parce qu'en face il fait pas attention à nous, mais c'est peut-être aussi insatisfaisant parce qu'on nous on se connaît pas nous-mêmes et qu'on a des propres blocages. Donc en fait ça oblige à se poser plein de questions pour avancer, donc c'est complètement faisable, mais se poser des questions, c'est prendre le temps de s'introspecter, et tout le monde n'a pas les capacités, ni de temps, ni intellectuel, ni de volonté de le faire, quoi.
Et est-ce que parfois, il peut peut-être aussi arriver de ne pas oser dire à l'autre ce qu'on aimerait ou de ne pas sentir légitime peut-être ses envies.
Complètement, c'est difficile de
sans vexer. Ouais.
C'est difficile déjà d'assumer son désir, parce que derrière, pour plein de gens, j'en parlais avec une patiente ce matin, elle me disait mais j'ai tellement honte du désir, j'ai le désir mais j'ai tellement honte de le vivre, parce que dans son histoire effectivement elle avait un beau trauma qui la suivait. Et oui, donc il y a ça, et même pour les non traumatisés, c'est que ça aussi c'est sociétal, tu te ranges ou dans les gentilles bien prudes ou dans la salope, oui. Mais l'entre-deux il est où en fait, et la société c'est fallait nous classer. Et donc, en fait, la femme, elle a eu du mal à accepter ses désirs et ses envies, parce que tout de suite, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, hein? Quelle est mon image? Qu'est-ce que je vais renvoyer à l'autre en face? Et comme souvent, les hommes ne sont quand même pas les meilleurs diplomates dans leur façon de parler. Il y en a beaucoup qui sont assez maladroits. Des fois, un petit mot peut être... C'est amusant, quoi.
Mais tout à l'heure, on parlait des idées reçues sur les sexologues. Je pense qu'on aurait peut-être plus tendance à dire d'un homme sexologue que c'est une bête de sexe, quand une femme, ça pourrait avoir une connotation un peu plus péjorative, comme une croqueuse d'homme ou ce genre de choses. C'est une femme qui va avoir une, par exemple, je dis pas que c'est le cas des sexologues, une vie sexuelle libérée et souvent bien moins vue, enfin, n'a pas d'adjectif.
C'est le coup du Casanova, entre le Casanova et la chaudasse.
Et donc du coup, par rapport à ce qu'on vient de se dire, est-ce que tu penses qu'on nous apprend mal à aimer et à désirer?
Complètement, on nous apprend pas. En fait, on nous apprend pas, on nous dit que c'est inné, quoi. Oui. Ça me rappelle la fois où j'ai accouché la première fois et que l'allaitement c'était inné. Bah non, c'est pas inné quand t'as jamais vu quelqu'un le faire. Hein. Enfin, oui. C'est naturel, mais c'est pas inné. Faire la roue, ça peut être naturel, c'est pas pour ça que tout le monde y arrive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et apprendre à aimer, non, c'est le problème qu'on a actuellement parce qu'on nous apprend pas, à aimer. Il y a trop de façades et on nous apprend pas la sexualité bienveillante et naturelle. Et comme on n'apporte rien. En face, ils vont se tourner vers ce qu'ils ont, et ce qu'ils ont, c'est le porno, ce qui n'est pas la vraie vie du tout, et ce qui va engendrer des vraies dysfonctions sexuelles derrière. C'est pour ça que j'ai beaucoup de jeunes, moi, c'est à cause de ça.
D'accord.
Et donc, non, je trouve qu'on ne nous apprend pas à aimer, et le romantisme devient obsolète, alors qu'il faut qu'on puisse... c'est là-dedans qu'on va pouvoir se retrouver au niveau émotionnel et pouvoir le recalquer après. Si tu n'as pas cette approche-là, tu ne vas pas te l'inventer, en fait. Tu vas t'empêcher de le vivre en te disant que c'est vulnérable et que ça peut être dangereux.
Et donc c'est assez paradoxal parce qu'effectivement on est dans une société qui est hyper sexualisée mais où le sexe finalement reste assez tabou dans les échanges. J'ai l'impression moi de mon côté que beaucoup de choses se sont libérées, on a la parole un peu peut-être au niveau sociétal un peu plus facile quant à ce sujet, mais concrètement est-ce que dans les faits plus bas à l'école ou même entre adultes, entre amis, etc. Est-ce que c'est si libéré que ça que de parler de sexualité? J'en ai pas tant l'impression.
Je pense qu'il y a deux niveaux conceptuels. Il y a la sexualité, on en parle, on en fait des blagues et gna gna, et on le regarde sur le pornographie et on fait... je les vois, les ados, là, avec leur TikTok, en train de ricaner comme des ânes, là. Mais voilà, c'est un autre niveau conceptuel, mais parler de sa propre sexualité, ça reste hyper tabou. On en parle, mais on parle de la sexualité pour faire rire
de
ou
façon
pour choquer.
Légère,
mais
oui.
pas...
Légère ou provocatrice,
ouais.
mais pas vraiment en toute sincérité.
Je pense pas.
Donc aujourd'hui, tu dirais que le porno, c'est plutôt un danger qu'un outil.
Ah ben c'est un danger, ouais. C'est pas un outil, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger et on me dit « Ah, le porno, c'est nul ». Effectivement, oui, c'est nul. Mais moi, je le dis souvent, C'est un porno pour un... Parce que tu as 50% des moins de 15 ans, 50% des ados de moins de 15 ans qui ont déjà vu
un film
pornographique. Alors un film, c'est pas des films, maintenant c'est des séquences. Mm. Parce que justement, c'est vraiment de l'industrie de la consommation, c'est plus des films d'une heure et demie, puisque ce qu'ils veulent, c'est entre 8 et 12 minutes, quoi, avec des catégories. Et c'est terrible parce qu'un gamin de 12 ans qui va tomber là-dessus sans aucune connaissance et prérequis, bah c'est, comme je dis toujours, c'est comme un gamin de 4 ans qui va regarder Harry Potter. Quand tu vois Harry Potter et tu vois les détracteurs, tu fais la part des choses en ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Un gamin de 4 ans ne fera pas la différence. Mais un gamin de 13 ans qui tombe sur du porno, c'est une effraction psychique. Il ne comprend pas, c'est quand même hyper violent. Et puis après, ils vont, comme c'est violent, ça va les traumatiser, ils vont y revenir. En fait, et après, ça va devenir un tuto. Et dans leur relation après de couple, bah, ça va être très compliqué de se positionner. Moi, j'ai vu ça, des gens qui avaient tellement mangé de pornographie qu'en fait, le jour où ils étaient vraiment amoureux, ils ne savaient plus faire l'amour parce que finalement, ce rapport sexuel non respectueux de la femme, ils ne voulaient pas la faire subir à celle qu'il aimait, mais ils ne savaient pas faire autrement.
Ah oui.
Et par exemple, il y a d'autres choses où ils ont pris tellement cette habitude de la pornographie où c'est une addiction, donc finalement c'est toujours, il nous faut toujours plus. Comme au début on est bourré avec un verre de vin, et puis après il en faut deux, après il en faut trois et machin. Mais ils vont toujours monter plus en excitation pour que ça puisse marcher. Et il va y avoir du changement, il va y avoir monté en violence. Et en... Sauf que quand on est en couple et qu'on est avec la même personne, on ne va pas toujours monter en crescendo. Et il y a des gens qui vont... Moi, j'ai eu des patients qui c'est terrible, mais allaient finir dans la salle de bain parce qu'ils ne pouvaient pas terminer avec leur partenaire.
Ah oui.
Parce qu'ils n'arrivaient pas à monter à ce degré d'excitation qu'ils avaient pu voir en pornographie.
Ah oui, wow.
Donc non, oui, je pense qu'il faudrait vraiment alerter les jeunes de ce danger-là, parce que oui, c'est moche, c'est pas beau, on leur dit ça, mais si on leur expliquait vraiment qu'ils risqueraient de développer des dysfonctions sexuelles après, peut-être qu'ils le prendraient avec plus de vigilance. En fait, il faudrait éduquer, pas leur dire que c'est interdit et leur dire que c'est de la merde, mais les éduquer à la critique. Mais pour tout, puisque les réseaux sociaux, c'est pareil, un truc sur deux, c'est faux, quoi. Donc,
Et qu'est-ce que tu penses, justement, parce que, par exemple, il y a... T'as des films un peu comme 365 jours, 50 nuances degrés, des choses comme ça qui sont très libérées par rapport à la sexualité, à la vision même de ce qu'est l'amour, parce que c'est très libéré quant au fait de pouvoir être un couple, de pouvoir être... Est-ce que le fait de se libérer autant sur la sexualité, plutôt que de libérer la parole, est-ce qu'elle ne crée pas des dérives, tu vois?
Ça, c'est un débat qu'on peut avoir avec plein de gens et pendant des heures. Alors, effectivement, je trouve ça intéressant au niveau de la visibilité, parce que ça ne veut pas dire parce que tu les vois dans une série que tu as envie d'être comme ça, mais si tu as ce penchant, tu peux te dire « Ah bah en fait, c'est possible de voir des troupes, de voir des sex friends, enfin tout ça. » C'est une nouveauté de couple, parce que le couple évolue aussi, c'est fini. Enfin, c'est fini, c'est pas fini, mais ça change. Ça permet de voir ce qui est possible. Alors effectivement, j'ai envie de dire, c'est comme dans un restaurant, plus t'as de possibilités, plus t'es perdu de savoir ce que tu vas choisir. Mais ça permet peut-être, si on est accompagné dans la réflexion, à s'interroger sur qui on est vraiment et sur ce qu'on peut être, et pas être limité. Avec un truc tout tracé, en fait.
Je te pose la question parce que j'ai l'impression, moi, du haut de mes 32 ans, qu'être hétéro et traditionnel, en fait, hein, je sais pas comment, je sais pas quel est
le cisgenre.
Cisgenre, voilà.
Cisgenre et hétéro. C'est une banalité.
Voilà. Eh ben, j'ai l'impression d'être complètement has-been. Donc, je ne sais pas si
non, j'ai... Non, t'es pas has-been. T'es finalement ce qui existe depuis la nuit des temps, mais c'est qu'en fait, là, on met en esgergue un peu les différences, et c'est bien parce que pour tous ces gens qui sont pas comme ça, je trouve ça génial de pouvoir se dire qu'ils ont le droit. Pendant tellement d'années, on a fait des thérapies de conversion, et encore, je pense que l'homosexualité a vachement avancé, mais tout ce qui est transsexualité, tout ce qui est gender fit, tous ces nouveaux concepts qui sont représentatifs de vraies personnes, il faut qu'elles existent, il faut qu'elles soient connues pour que les gens puissent s'identifier. Mais c'est vrai que c'est un fou artistique total pour la société.
Oui. Je pense que plus le temps passe et plus notre liberté d'expression, contrairement à ce qu'on pense, est bridée.
Ah ben complètement, je suis d'accord.
Ouais.
Et tu vois, je me rappelle d'un prof, j'ai plus son nom, que j'avais eu en sexo, qui nous avait dit « L'unité familiale est l'unité la plus petite et la plus fondatrice de la société. Le papa, la maman, les enfants. » Et donc, à partir du moment où tu verras que la sexualité, dans toutes les sociétés, elle a été conscrite, elle a été limitée par X ou Y façon, mais elle a été en tout cas bornée, parce que si la sexualité commence à devenir libre, l'unité familiale est en péril. Si tu commences à avoir deux papas, des mamans, des familles recomposées, etc., et c'est très bien, mais ça met en péril la petite unité familiale, donc ça met en péril la société. Mais voilà, il disait qu'effectivement, tu verras, quand la liberté sexuelle va arriver à son apogée, les sociétés vont refermer les vis et vont faire marche arrière. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis 2 ans aux États-Unis, en Pologne, où les droits des homosexuels, des transsexuels sont bafoués, et en fait, on revient en arrière. Mais voilà, donc effectivement, la sexualité, elle est trop corrélée à la société pour être libre, je pense.
Oui. Si tu pouvais dire une chose aux couples qui souffrent en silence, ça serait quoi ?
Allez vous faire aider, même si c'est peu de temps, parce que la thérapie de couple, ou les thérapies, en tout cas en sexo, sont pas des thérapies longues, mais parce qu'en fait, ça va être un petit déclic, ça va être aussi un lieu pour en parler, ce qui fait que ça va alléger le quotidien. On ne va pas balancer le truc entre le fromage et le dessert, comme ça va revenir quand il y a un conflit qui est rémanent. Et d'avoir cette espèce d'endroit pour pouvoir en parler, et ben ça allège le quotidien, donc ça permet aussi une communication meilleure. Et c'est bien souvent quand la communication est meilleure que les problèmes se résolvent, en fait. Mmh. La solution, ils l'ont, c'est juste souvent...
Pour un déclic, quoi.
Ouais.
Tu dirais que la clé numéro une d'une sexualité épanouie, c'est quoi, selon toi ?
La connexion et la communication.
Ouais.
C'est sûr, et la communication et la confiance. Moi, je dis toujours, dans un couple, il faut être en sécurité, il faut être en sécurité, être respecté et être en confiance, ça va avec. C'est-à-dire que il faut être plus deux, faut être mieux à deux que tout seul. Et je peux t'assurer qu'il y a plein de couples, quand ils se posent la question, ils cochent pas toutes les cases, en fait.
Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur le sexe ?
Ça peut être tellement épanouissant quand on prend le temps de le faire comme on a envie de le faire. C'est que la femme va pouvoir dissocier le fait que je t'aime, même si je ne te désire pas, je peux t'aimer très fort. Mmh. Et c'est vraiment deux choses qui vont être bien séparées dans sa tête. Alors que l'homme, c'est pas tous des gros cochons, mais l'homme va entendre que sa partenaire l'aime et qu'il est important pour elle, etc. Mais il va le ressentir dans sa chair par le rapport sexuel, d'une manière exponentielle. Donc effectivement, il va vraiment souffrir de ne pas pouvoir le vivre avec sa partenaire, pour x ou y raison, qu'elle est complètement légitime, sûrement que ça s'arrête à ce moment-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la souffrance, elle est réelle, parce que c'est souvent vécu comme un manque d'amour de leur part.
D'accord.
C'est pas forcément une frustration mal gérée. Il y en a, c'est ça. Mais il y en a, c'est une souffrance de manque d'amour. Et ça, s'il n'y a pas de communication dans le couple, c'est complètement incompris.
Ça me fait écho au livre « Les 6 langages de l'amour ». C'est un livre qui dit que tu peux, t'as ton propre langage pour exprimer l'amour que tu portes à ton compagnon ou à ta compagne. Et en fait, par exemple, parfois des gens sont convaincus de ne pas recevoir d'amour de leur partenaire parce qu'en fait, ils ne sont pas sensibles à la façon dont ils l'expriment.
Complètement.
Et du coup, j'ignorais que les hommes, ça passait principalement par le fait de faire l'amour, par le contact physique.
Ils vont le ressentir plus fort, en fait. Ils vont se sentir exister et aimer à ce moment-là. Et donc, je pense qu'il y a une part d'être désirable sexuellement, c'est souvent mélangé avec d'être aimé.
Est-ce que tu dirais que la sexualité peut rendre la vieillesse plus douce et plus heureuse ?
Ben oui, parce que se sentir aimé et être touché, c'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain. Et je pense que nos anciens, ils l'ont plus.
Ça, je me le suis souvent dit, ça, le toucher, c'était hyper important. Ça a dû être terrible, ce qui est, pendant le Covid, les personnes âgées en EHPAD, etc.
Et même maintenant, je le vois avec la grand-mère de mon mari qui a 98 ans. Alors, il y a du monde qui passe chez elle, mais ils vont vite. Ils vont vite, on met les bavarices, on les lève pour la toilette, mais il n'y a plus de...
Le contact.
Il n'y a plus de contact, quoi. Et c'est vrai que même moi qui... Je suis infirmière, je vais pas aller, je me vois pas aller lui masser le dos ou les pieds pour qu'elle aille mieux, en fait, qu'elle soit bien. Et en fait, ils sont privés de contact humain, un peu quand même, beaucoup, parce qu'ils sont isolés, mais encore plus de toucher. Et ça, ils l'ont montré. Il y a eu des expériences terribles il y a des années sur des enfants où on leur donnait à manger, mais on les touchait pas, et pas d'amour, et les enfants se laissaient mourir. Donc c'est vraiment une substance essentielle à notre vitalité.
Ça. Ah, je donne toujours cet exemple, c'est terrible. Soit ils sont morts, soit ils sont devenus handicapés. Mm. Oui. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que c'était génial.
C'était
merci
chouette aussi.
Merci pour ta sincérité et l'échange. Et je pense qu'on pourrait faire 15 podcasts parce qu'il y a 15 000 sujets qu'on pourrait aborder. Oui, il y a plein de sujets.
C'est que ça qui est super intéressant, c'est que
on peut te retrouver avenue Michel Grandoux.
Oui.
À ton cabinet directement. Et je mettrai, tu as un site internet peut-être
où oui.
Je pourrais mettre le lien.
Bien sûr, avec plaisir.
Bon, bah génial. Bah merci beaucoup.
Non, merci à toi.
Et à bientôt.
Ok.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.